Ce week-end, l'AF1 se dirige du côté de l'Angleterre sur le mythique circuit de Silverstone. On en parle avec Jacques Villeneuve. Salut Jacques!
Salut!
Jacques, Silverstone, pour toi, ça veut dire quoi?
C'est un des endroits mythiques, phares importants de la course automobile est en Angleterre. Et puis vu que je roulais avec Williams à l'époque, qui était une équipe basée ici, pas loin, anglaise, j'ai eu des victoires ici aussi, donc c'est de bons souvenirs.
OK, de bons souvenirs. Parle-moi du circuit. Qu'est-ce qu'on va trouver ce matin, ce week-end, lors de ce Grand Prix?
Le circuit a beaucoup évolué au fil des années. Le nombre de fois où il a été changé est hallucinant et là, malheureusement, ils l'ont un peu détruit. L'ancienne partie, il y a quand même des S rapides, des virages super intéressants, mais toute la nouvelle partie, là, c'est juste de l'asphalte de partout. C'est très moderne et ça a enlevé beaucoup de cachets au pilotage. C'est un peu dommage, mais là, ils ont réasphalté la piste. Et donc, on va retrouver les mêmes pneus qu'il y avait à Barcelone et en France, les pneus qui plaisent beaucoup à la Mercedes.
Écoute, ça peut être intéressant encore une fois pour Mercedes qui semble bien performer malgré le fait que lors d'une dernière conversation que nous avions ensemble, tu me disais Mercedes tend à moins bien performer cette année, Ferrari tend à mieux performer mais n'a pas nécessairement les victoires escomptées.
Non, et puis Mercedes est obligé de prendre des risques dans les évolutions de la voiture, sur le moteur aussi pour tenir le rythme de Ferrari. Et c'est pour ça qu'on voit des bris mécaniques maintenant qu'on ne voyait pas par le passé chez Mercedes parce qu'en Autriche, un double bris mécanique chez Mercedes, je crois que c'était jamais arrivé depuis les années 50 ou même avant. Je parle purement de bris mécanique, pas d'abandon, accident. Donc, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et on l'a vu, dès qu'il fait très chaud, c'est compliqué pour Mercedes. Et ce week-end ici, il fait quoi? Il fait 35 degrés, c'est hallucinant. Jamais vu autant de température en Angleterre.
Dis-moi, quel est l'impact justement de la chaleur sur les bolides?
Ben, déjà, les moteurs souffrent un peu, hein, l'air est moins dense. Mais avec le turbo, ça c'est pas très gênant. Moins d'appui aérodynamique, ça glisse un peu plus. Et les pneus surchauffent, ça glisse beaucoup. Les pneus surchauffent, l'huile qui est dans l'asphalte remonte, et donc ça, c'est pour ça qu'on voit des pneus cloqués. Par exemple, on a eu ça en Autriche. Et à ce jeu-là, la Ferrari était la plus performante.
Et dis-moi pour le pilote, l'impact d'une température au-dessus des 30 degrés Celsius.
La déshydratation. Hein. Les courses sont longues. Et surtout Silverstone où il y a beaucoup de virages rapides, donc il faut bien s'hydrater. Parce que le soleil qui tape sur le pilote, il n'a pas un toit là, il porte pas une casquette, il porte un casque qui fait chaud. C'est vraiment difficile pour les pilotes lorsqu'il fait chaud.
Okay, mais là attends, explique-moi là. Vous êtes capable de boire durant que la course se déroule?
Oui, mais pas grand-chose, un demi-litre maximum, peut-être un litre, mais il faut être hydraté avant la course. Il faut juste boire un petit peu. Pour pas trop perdre d'eau. Écoute, moi, je perdais à chaque fois 3 kg de fluide, de sel minéraux pendant une course à chaque fois. Donc, c'est quand même beaucoup. Et lorsqu'il fait chaud comme ça peut monter à 5 kg.
Et comment, écoute, je poursuis là-dessus parce que ça m'intrigue. À un moment donné, l'oxygène doit être assez rare. Comment vous avez justement cet apport en oxygène nécessaire quand, un, il fait extrêmement chaud et, deux, vous êtes dans un bolide qui surchauffe?
Le pilote surchauffe aussi, hein. C'est pour ça que le cœur, il va monter à 180 battements, 160 battements, et c'est de la grosse respiration. Donc, faut que le pilote ensuite prenne un rythme et trouve un moyen de se réoxygéner pendant les lignes droites, parce que souvent dans les virages rapides, le pilote se retrouve un peu en apnée.
Définitivement à cause de la forgée. Jacques, ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de la poutine qui s'est passée cette semaine du côté de la F1. Un grand ménage chez McLaren. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? As-tu des écoutes vestiaires? On va entendre ça, là.
Ben non, c'est normal. Les têtes tombent. Quand les choses vont mal comme ça, la politique se met en place et certains doivent se protéger. Donc, il faut commencer à couper des têtes. C'est ce qui se passe un peu. Et Boullier faisait partie un peu de l'ancienne garde. De l'ancien management, donc c'était logique qu'il parte. Je suis pas sûr que ce soit de sa faute que la voiture et que l'équipe soit si peu performante, mais ça permet de gagner un peu de quelques mois. C'est typique de dans tous les milieux. Hein. Quand les choses vont mal, les têtes tombent.
Dis-moi, Jacques, est-ce que tu prévois d'autres têtes qui peuvent tomber prochainement dans d'autres écuries?
Oui, parce que écoute, l'autre écurie qui va mal, c'est Williams. Déjà, il y en a déjà plusieurs qui sont partis, qui ont été licenciés. Mais après, là, le côté politique chez Williams, c'est un peu différent parce que c'est quand même une compagnie publique. Il doit rendre des comptes. Donc, ça fonctionne plus comme une business que comme une équipe de course.
OK, mais on disait pas que c'est le père de Lance qui avait investi beaucoup d'argent, puis justement qui était un peu en contrôle de ça?
Ben, on dit plein de choses, mais on ne sait jamais la vérité. Mais on le voit très impliqué, très présent. Il y a des rumeurs qui fait partie des meetings avec des pilotes directement. Donc mais on n'est pas sûr parce que c'est pas son équipe non plus. Donc c'est très compliqué de comprendre depuis l'extérieur comment ça se passe là au sein de Williams.
Mais dis-moi, Jacques, est-ce que Claire Williams pourrait perdre son boulot, tu penses, à un moment donné?
Aucune idée. Mais clairement, elle n'a pas fait la job.
Et penses-tu qu'elle est capable de corriger le tir?
Non, parce que ça fait longtemps que le navire est en chaviré, qu'il est en train de prendre de l'eau. Et j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte à quel point ils sont en train de couler. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mensonges. Il faut se dire la vérité aussi. Et j'ai pas l'impression qu'ils sont capables de vraiment se le dire. Donc c'est un peu compliqué.
Ce matin, dans la presse ici au Québec, un titre qui va dans le sens de Stroll prône un optimiste prudent à l'aube du Grand Prix de Grande-Bretagne et dit qu'il pourrait y avoir des améliorations marquées au Grand Prix d'Allemagne. Étant donné qu'on a fait la Q2 en Autriche, on est optimiste du côté de Williams et de Lance Stroll. Est-ce que tu partages cet optimisme?
Ben, c'est important d'être optimiste. Sinon, rien n'est accompli. Donc, heureusement qui soit optimiste comme ça, si ça va peut-être permettre d'améliorer un peu. Mais la Q2 en Autriche, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ils étaient quoi, une dizaine de voitures en 3/10e, c'était vraiment très serré. Donc, la voiture semblait pas être plus performante que les courses précédentes. Donc, à moins qu'il y ait vraiment de grosses nouveautés sur la voiture, je vois pas ce qui aurait pu évoluer, parce que toutes les autres écuries continuent d'évoluer leur voiture course après course. Et à chaque course, mais Williams régresse un peu. Et il faut se souvenir, en Autriche, Felipe Massa a pris la pole position avec une Williams. Donc, c'est une des pistes où la Williams a été à son meilleur. Donc, à peine rejoindre la Q2 sur la piste, la meilleure piste pour Williams, je veux dire que les autres pistes vont continuer à être compliquées. Il faut qu'il y ait quand même de gros changements.
Dis-moi, et je veux que tu m'expliques encore une fois, je sais que tu m'as déjà parlé de ça, mais je veux comprendre, comment se fait-il qu'une voiture puisse connaître du succès sur un circuit une année, et l'année d'après, ça peut être complexe? On ne peut pas prendre les mêmes données, les transporter l'année suivante et essayer de les appliquer?
Mais non, ce n'est pas la même voiture. Il y a des évolutions, des changements, les suspensions, l'aérodynamique, tout est changé, les pneus ont évolué. Et une voiture est mauvaise quand les autres vont plus vite. Donc, si les autres écuries ont amélioré énormément, ont gagné 2 secondes et que Williams n'en a gagné qu'une demi, au comparatif, ils en ont perdu une seconde et demie. Et là, les pilotes tentent de compenser, surconduisent et la voiture devient inconduisible parce que la différence est tellement grande. Alors que les voitures qui roulent devant, souvent, n'ont pas besoin de pousser autant les limites. Donc, les voitures sont tout de suite faciles à piloter.
OK, je comprends bien. Jacques Villeneuve, écoute, c'est en pleine saison présentement du Mercato. Ça sera les spéculations à savoir quel pilote va changer de place. Avec toi, je veux faire le jeu de te parler des 3 grandes écuries et je veux savoir si, selon toi, il y a des pilotes qui vont changer de place là-dedans. Mercedes, est-ce qu'il y aura un changement de pilote?
Non.
Bottas va rester là.
Oui. Écoute, il est vite. Il était en pole position le dernier Grand Prix. Beaucoup de malchance cette année, mais il est vite. Donc, aucune raison de changer.
Parfait. Ferrari.
Là, on sait pas trop. Parce que Kimi Räikkönen fait la job. Il est 3e au championnat, pas loin des meneurs. C'est le dernier champion Ferrari. Mais en même temps, il y a tellement de rumeurs qui voudraient que Charles Leclerc y passe déjà l'année prochaine, ce qui serait peut-être une année trop tôt. Difficile de savoir, est-ce qu'ils veulent faire comme Red Bull et à tout prix avoir un jeune pour montrer qu'ils aident les jeunes, ou est-ce qu'ils vont le faire, ce qui serait le mieux pour Ferrari, ce qui serait de garder le couple actuel au moins pendant une autre année.
Et chez Red Bull?
Les rumeurs sont que justement Ricciardo aurait déjà signé, mais c'est pas clair non plus. C'est vraiment pas clair. Aucune idée. Là, j'ai l'impression que c'est Ricciardo qui attend de poser sa signature ou non.
Ben voilà ce qui rendra les prochaines semaines fort intéressantes. Jacques Villeneuve, on t'écoute tout au long du week-end pour tes reportages sur le Grand Prix d'Angleterre en direct du circuit de Silverstone. Jacques Villeneuve, merci d'avoir été avec nous.
Merci, bye-bye.